Jacques Lacan. Séminaire L'envers de la psychanalyse. Le 18 mars 1970.
Voilà. Il y a une personne dans cette assemblée qui a un peu bon. Merci de bien vouloir relever. J'avais dit la dernière fois une certaine déception de personne disais-je. Plaisir de vous taper, c'est la loi de malgré fort. Le plaisir de danser sur une trace que j'aurais faite. La personne en question, soit qu'elle sourit, elle est présente. Pourquoi ne pas la nommer Marie-Claire Bruns? M'a donc envoyé un tirage à part, une revue fort intéressante. Trop de fois, je peux dire que j'ai des excuses. Son article, c'est une revue, je peux bien dire qu'elle n'a pas vu que se présenter au chef de mon enseignement, ça s'appelait l'inconscient. Il y a eu très bonne chose de dire. Simplement, paradoxalement, peut-être à cause de cela même, que sais-je d'auto-principe au moins dans son comité de rédaction, le secteur des jeunes, on n'en a pas fait le service. De sorte que j'ai l'intention à tirer sur ce numéro, qui la paternité, le numéro 5, c'est d'abord lui. Avec beaucoup soit l'article de Marie-Claire Bruns, et puis ensuite un autre qui est notre ami Conrad Stetten. Pour parler de celui de Marie-Claire Bruns, je suis tout prêt, si elle le voulait, à le prendre aujourd'hui comme texte d'explication et. En apparaître, c'est un certain nombre de questions qui surgiraient à propos des chemins qu'elle choisit. Sur le meurtre du père chez Freud. La vérité, je crois, qu'il apparaîtrait aisément que rien n'y franchit, rien n'y devance. Ce que j'avais à la date où elle a fait cette publication, déjà avancé, et je l'ai très modestement concernant le complexe d'État. Il y a une autre méthode, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie en effet d'aller plus loin, en montrant que ceci est déjà impliqué dans cette avancée prudente qui fut la mienne jusqu'ici. Et alors, peut-être, dans un second temps, à l'occasion d'une rencontre, rétroactivement, s'éclairera mieux ce que je voudrais dire si seulement je vous suspendais divers points d'un article qui, en effet, par bien des côtés, présente une sorte, je dirais, d'ouverture, de questionnement, de préparation, si l'on veut, à un passe et même ici un peu pour l'une ou l'autre de ces deux méthodes, mais si elle ne déclare pas formellement que c'est au commentaire de son article qu'il conviendrait que nous procédions, il laisse la parole. Eh bien, je procéderai de la seconde façon. Voilà, la mort est faite. La mort du père, en effet, chacun sait que il semble que ce soit là la clé, le vrai vice de tout ce qui s'énonce. De tout ce qui s'énonce et pas seulement le titre mythique, de ce qu'il en est, ce à quoi a faire la psychanalyse. Clapons, le terme de son article, vous laisserait même entendre que beaucoup de choses découlent de sa propre père, énormément que je ne sais quoi qui ferait que la psychanalyse, d'une certaine façon, nous libère de la loi. Grand espoir. Je sais bien en effet que j'ai sous ce registre que quelque chose, un épinglage libertaire, se rattacherait à la psychanalyse. Je pense à vrai dire, et c'est tout le sens de ce que j'appelle l'envers de la psychanalyse, il n'en est rien. La mort du père, pour autant qu'elle fait écho à cet énoncé, à centre de gravité nietzschéenne, à cette annonce, à cette bonne nouvelle que Dieu est mort, ne paraît pas loin de là, et la première assiette à en donner la preuve, eh bien l'énonciation de Freud lui-même, dont à juste titre Marie-Claire Kunz, au départ de son article, nous fait remarquer ce que j'ai déjà dit. Il y a deux séminaires, c'est à savoir que d'une certaine façon, cette annonce de la mort du père n'est loin d'être incompatible avec cette motivation donnée par Freud, comme étant la sienne, comme une interprétation analytique de la religion elle-même reposerait sur quelque chose qu'assez étonnamment il avance comme premier, à savoir que le père est celui est reconnu comme méritant l'amour. Il y a là déjà l'indication d'un paradoxe. D'un paradoxe qui laisse l'auteur que je viens de nommer dans un certain embarras concernant le fait qu'en somme la psychanalyse préférerait l'Asie, quelque sorte, réserver le champ de la richesse. Je crois justement ici, on peut dire aussi qu'il n'en est rien. La pointe de la psychanalyse est bel et bien l'athéisme, à la condition de donner à ce terme un autre sens que celui de Dieu est mort. Donc, assurément, tout indique que rien qu'il mette en question ce qui est en jeu, à savoir la loi, bien plutôt il la consolide. Il y a longtemps que j'ai remarqué qu'à la phrase du vieux père Karamazov, Dieu est mort, alors tout est permis. La conclusion qui s'impose dans le texte de notre expérience, c'est qu'à Dieu est mort, répond, Dieu est mort, que rien n'est permis. Pour éclairer le site dont je vous annonce l'horizon, partons de la mort du Père, si tant que c'est bien elle que Freud nous avance comme étant la clé de la jouissance, de l'objet suprême, identifié à la mère. La mère disait de l'inceste, il est très sûr que ce n'est pas à partir d'une tentative d'expliquer ce que veut dire toucher avec la mère, que ce meurtre du père s'introduit dans la doctrine folle. C'est bien au contraire, à partir de la mort du père, que l'interdiction de cette jouissance comme étant première s'édifie. À la vérité, ce n'est pas de la mort du père seulement qu'il s'agit. C'est, comme l'a également fort bien mis au titre de son interrogation, la personne dont je parle, le meurtre du père. C'est là, dans le mythe des vies tel qu'il nous est énoncé, est la clé de la jouissance. Et aussi bien si ce mythe, nous le regardons de près, c'est ainsi qu'il nous est présenté dans cet énoncé de ce titre qu'il convient de traiter comme ce qu'il est, à savoir un contenu manifeste et du même fait de commencer par bien l'articuler. Le mythe d'Édipe, au niveau tragique ou Freud, se l'approprie, montre bien que le meurtre du père est la condition. l'action de la jouissance. Si l'alus n'est pas écarté au cours d'une lutte, d'ailleurs, il n'est pas sûr que c'est ce pas qu'il va accéder à la jouissance de l'âme. Si l'alus n'est pas écarté, il n'y aura pas de jouissance. Est-ce au prix de ce meurtre qu'il l'obtient? Ici, le socle, ce qui est principal, ce qui de l'argent l'a pris d'un mythe mise en action dans la tragédie, prend tout son rôle. C'est au titre d'avoir délivré le peuple. Une question qui le décide, c'est meilleur vouloir répondre à ce qui se présente comme l'ennemi, c'est-à-dire qui se peut être supporté par ce être ambigu qui est le sphinx ou s'incarne, et à proprement parler de cette disposition double, le fait qu'elle le midi de deux mi-corps, et dit lui répondant, se trouve, c'est là que l'ambiguïté. Supprimer le suspens introduit ainsi dans le peuple la question de la vérité. Est-ce à dire qu'à lui donner cette réponse? Cette réponse doit assurément il n'a pas l'idée quel point elle devance son propre drame, mais aussi à quel point de faire un choix. Elle tombe peut-être sa réponse dans le piège de la vérité en répondant c'est l'homme, car qu'est-ce qui s'est ce qu'est l'homme, et est-ce tout en dire de le rallier? Combien ambigu dans le cas des deux. Qu'il faut d'abord aller à quatre pattes, puis sur les deux de derrière, on voit éviter. Comme toute sa lignée se distingue, justement, comme l'a remarqué fort bien Claude Lévi-Strauss, de ne pas marcher droit, puis de finir de l'aide d'un bâton pour n'être pas la canne blanche de l'aveugle, n'en devait pas être néanmoins pour Édipe du plus singulier élément troisième pour le nommer sa fille Antigone. La vérité s'est écartée, qu'est-ce à dire? Est-ce pour laisser le champ libre à ce qui restera pour Edith. La voix d'un retour, car c'est d'avoir voulu, en présence, un malheur deux fois plus grand, non pas décimant son peuple, ou soit ceux qui s'offrent à la question de la sainte, mais qui le frappe dans son ensemble, sous cette forme ambiguë, s'appelle la peste, avec tout dont elle a la charge dans la thématique de l'Antiquité. C'est là que Freud en désigne. Je cours Édipe, la question de la vérité se renouvelle et qu'elle aboutit à quoi? À ceci que d'une première approximation, pouvons identifier à quelque chose au moins qui a rapport au prix payé d'une carpation. Est-ce bien là de dire si de ce que non pas les écailles lui tombent des yeux, mais les yeux lui tombent comme des écailles? Est-ce bien là pour dire? Et n'est-ce pas dans cet objet même que nous voyons hésite être réduit, non pas à subir la castration, mais dirais-je plutôt à être la castration elle-même, à savoir ce qui reste tant disparaît de lui sous cette forme de ses yeux, des supports élus de l'objet petit a. Qu'est-ce à dire, si ce n'est que la question se pose de savoir si d'être monté sur le trône, non par la voie de la succession, mais par la voie de ce choix qui est fait de lui comme du maître, pour avoir effacé la question de la vérité. C'est cela qu'il doit payer, autrement dit, introduit comme déjà vous l'êtes de mon énoncé, que ce qui fait l'essence de la position du maître, c'est d'être châtré. Nous ne trouvons pas là, certes, voilé, mais indiqué que cette hausse de la castration que procède ce qui est proprement la succession. Si le Fils, c'est comme le fantasme, on est toujours très curieusement indiqué, mais jamais proprement rattaché au mythe fondamental du Père. La castration est ce qui frappe le Fils, est-ce que ce n'est pas aussi, et ceci dans toute notre expérience syndique, ce qui le fait accéder par la voie juste parce qu'il en est de la fonction du Père? Est-ce que ce n'est pas indiqué que c'est de père en fils que la castration se transmet? la mort dès lors à se présenter comme étant à l'origine. Est-ce que nous n'avons pas là l'indication que c'est peut-être un mode de couverture de ce qui, quoique surgit, expérimenté de la position même de l'analyste, un caractère essentiel dans le procès subjectif de cette fonction de la castration, le cache tout de même, le voile d'une certaine façon, le met, si l'on peut dire, sous son égide, et nous décide de porter à son point vif ce que permet, d'une façon dernière et tout à fait rigoureuse, ce que permet d'énoncer la position proprement de l'analyse. Comment cela se fait-il ? Assurément, là, il n'est pas vain de s'apercevoir que le mythe du meurtre du père, comme étant essentiel, est d'abord rencontré chez Freud au niveau de l'interprétation du rêve, ou à son dire, et ceci, c'est ceci que d'une façon, assurément l'article de Conrad éclaire remarquablement que un souhait de mort si manifeste, dont assurément l'auteur produit une critique remarquable en manifestant que la recrudescence de ces vœux de mort au moment même que cette mort est réelle. Et s'il est vrai que pour Freud, l'interprétation des rêves est surgie à son dire, à son propre dire, de la mort de son père, n'est-ce pas là aussi bien la marque, l'auteur revient et il le souligne, car ce vouloir coupable de la mort de son père, de quelque chose qui se cache, est proprement le vœu que le père soit mortel. C'est-à-dire, aussi bien ceci avance dans la ligne de ce qui est mis au centre du psychologisme analytique. Dans cette ligne, l'énoncé donné comme un présupposé banal que se fait l'essence de la position infantile, de son fondement dans une idée de la toute-puissance, une idée de la toute-puissance qui ferait qu'elle est au-delà de la mort. Or, si cette interprétation est, si je puis dire, régulière, sous la plume d'un auteur qui n'abandonne pas ses présupposés, tout au contraire, à critiquer le dit, qu'il en est de l'essence, de la position de l'instant, il en résulte que c'est une autre voie que doit être abordée. Ce qu'il en est des souhaits de mort, et s'il recouvre quelque chose de masque, de ce qui est à masquer en local. Et pourquoi d'abord penserions-nous que d'aucune façon il y a dans ce que nous avons à énoncer comme étant de la structure subjective. La structure subjective comme dépendant de l'introduction du signifiant. Comment pouvons-nous mettre au chef de cette structure quoi que ce soit qui s'appelle connaissance de la mort, à lire d'un autre sens les analyses de Freud sur quelques intérêts majeurs qui portent la fameuse prière de fermer les yeux avec l'ambiguïté sous une barre de cet œil qui aussi bien et par lui produit comme le fait une alternative. Ceci ont assurément Conrad profite portabilement dans la ligne de son interprétation. L'interprétation qui est celle d'une dénégation de la mort au nom de la toute-puissance. Peut-être susceptible à prendre le dernier rêve de la même série pour en faire le sens que j'ai fait en ce temps, de remarquer l'accent qui est mis sur un rêve, qui n'est pas un rêve de Freud, mais celui d'un cétacien. Le rêve qui s'énonce et que j'ai décomposé pour l'analyser, à l'aligner sur les deux lignes de l'énonciation et de l'énoncé, il ne savait pas qu'il était mort. Ceci pour nous rappeler que de deux choses une, ou en effet, la mort n'existe pas. Il y a quelque chose qui survit, et la question n'en est pas pour autant résolue. Si les morts savent qu'ils sont morts, ou bien il n'y a rien au-delà de la mort, et il est bien assuré que dans ce cas, ils ne le savent pas. Ceci pour dire que nul ne sait, en tout cas, évident ce que c'est que la mort. Et qu'il est remarquable que les productions spontanées qui se formulent comme étant du niveau de la conscience s'énoncent à proprement parler de ceci que la mort pour quiconque est à proprement parler inconnaissable. J'ai souligné en ce temps, en effet, qu'il est indispensable à la vie que quelque chose d'irréductible ne sache pas. Je ne dirais pas que nous sommes morts, parce que justement, c'est pas ça qu'il faut dire. dites que nous ne sommes pas morts, pas tous ensemble, en tout cas. C'est bien là-dessus qu'est notre assiette. Quelque chose ne sache pas que je suis mort. Je suis mort très exactement en tant que je suis voué à la mort. Mais justement, au nom de ce quelque chose qui ne le sait pas, moi non plus je ne veux pas le savoir. C'est ce qui me permet de mettre au centre de la logique tout homme, ce tout homme, tout homme est mortel, dont l'appui est justement ce non-savoir de la mort et du même coup ce quelque chose qui nous fait croire que tout homme, ça signifie quelque chose. Tout homme naît d'un terme. Ton chef, nous dit-on, en tant qu'il est mort, qu'il, lui, l'homme, ne jouit pas de ce dont il a à jouir. L'équivalence en termes freudiens est donc faite du père mort et de la jouissance. C'est lui qui la garde en réserve, si je puis dire, le mythe freudien, tel qu'il s'énonce. Non plus au niveau du tragique, avec sa souplesse subtile, mais dans l'énoncé du mythe de Totem et Tabou, c'est l'équivalence du père mort et de la jouissance. C'est là que nous pouvons qualifier du terme d'un opérateur structural. Ici, le mythe se transcende. Dénoncer au titre du réel, car c'est là ce sur quoi Freud insiste, que ça s'est passé réellement. Que c'est le réel. Le père mort est ce qui a la garde de la jouissance, et ce d'où est parti l'interdit de la jouissance, d'où est la procédure. Se présente à nous en quelque sorte comme le signe de l'impossible, mais que le père mort soit la jouissance. Et c'est bien dans ce cycle qu'au terme, qui sont ceux que je définis comme fixant la catégorie du réel en tant que dans ce que j'articule se distingue radicalement du symbolique et de l'imaginaire, de le réel, c'est impossible. C'est ce à quoi, non pas au titre de simple cruté contre quoi nous cognons le front, mais de l'acuité logique de ce qui, du symbolique, s'énonce à proprement parler comme impossible que le réel surgisse, nous reconnaissons bien là, en effet, au-delà du mythe qu'édite, un opérateur structural, celui dit du père réel, avec, je dirais même, cette propriété qu'au titre de paradis, il est aussi la promotion au cœur du système freudien de ce qui est le père du réel aussi bien. Ceci qui marque, qui met au centre l'énonciation de Freud, un terme de l'impossible. C'est très bien dit que l'énonciation freudienne n'a rien à faire avec la psychologie. Il n'y a aucune psychologie concevable que ce père originel, seulement la présente comme celui. Je n'ai pas besoin de répéter la dérision que j'en ai faite lors, je pense, du dernier séminaire. Celui qui jouit de toutes les femmes, concevable imagination, alors qu'il n'est trop clair que c'est assez normalement perceptible, que c'est déjà beaucoup de suffire à une. C'est ici que nous sommes renvoyés à une toute autre référence, à celle de la castration à partir du moment où nous l'avons définie comme principe du signifiant maître. J'y reviendrai. Exactement, je vous montrerai au terme de ce discours d'aujourd'hui ce que ceci peut vouloir dire. Le discours du maître nous montre la jouissance comme venant à l'autre. C'est lui qui en a les moyens. Ce qui est langage ne l'obtient qu'à insister jusqu'à produire la perte, d'où le flux de jouir prend corps. D'abord, le langage, même celui du maître, ne peut être autre chose que demande qui échoue. Ce n'est pas de son succès, c'est de sa répétition que s'engendre quelque chose qui est une une autre dimension que j'ai appelée la perte. La perte, c'est le plus de jouir encore. Cette création répétitive, cette inauguration d'une dimension dont sortent tout ce dont va pouvoir se juger l'expérience analytique, ceci peut aussi bien partir d'une impuissance originelle, de celle pour tout dire de l'enfant, loin qu'elle soit la toute puissante. Si on a pu s'apercevoir que ce que la psychanalyse nous démontre, c'est que l'enfant est le père de l'homme, c'est bien qu'il doit y avoir quelque part, quelque chose qui en fait la médiation, et c'est très précisément cette insistance du maître. Insistant en tant qu'elle vient à produire, je l'ai dit, de n'importe quel signifiant, après tout, le signifiant net. Le terme que j'ai avancé en son temps, que le père fait, je ne l'ai avancé que d'avoir au nom. J'avais formulé ce qui retourne de la relation d'objet, c'est encore avec la structure freudienne. J'avais pris soin de dégager d'abord ce qu'il en est de distinct dans l'essence de la castration, de la frustration et de la privation. La castration est en fonction essentiellement symbolique, à savoir ne se concevant de nulle part d'autre que l'articulation signifiante, la frustration étant de l'imaginaire et la privation, comme il va de soi, du réel. C'est là qu'on voit qu'il nous faut, quant à ce qu'on peut définir du fruit de ces opérations, au niveau de la castration et de l'énigme, que nous propose le phallus en tant que manifestement imaginaire qu'il faut faire l'objet de la première de ces opérations. Je sais, ma foi, pourquoi pas, de quelque chose de bien réel, qu'il est toujours question dans une exposition, même si la revendication qui la fonde a bien sûr de ressources, mais qu'à imaginer que ce réel, on vous le doit, ce qui va de soi. De la privation, d'autre part, il est bien clair qu'elle ne se situe que du symbolique, car pour quelque chose de réel, rien ne saurait manquer si le réel est réel. Que c'est bien d'autre part que doit provenir cette introduction, pourtant tout à fait essentielle, sans laquelle nous ne serions pas nous-mêmes dans le réel, savoir que quelque chose, et c'est bien ce qui caractérise d'abord le sujet, bon. C'est au niveau des agents que je suis resté en son temps, sans l'indiquer moins explicite. Le père réel, et c'est ce que l'affirmation du Père réel comme impossible est destinée à nous masquer. Le Père réel n'est rien d'autre que l'agent de la cathare. Agent. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, au premier abord, nous glissons dans ce fantasme que c'est le père qui est castraté. Il est très ardent. Aucune des formes de mythe auquel Freud se soit attaché n'en donne une idée. N'est pas que ce que les fils, dans un premier temps hypothétique, sont encore animaux, n'accèdent pas au troupeau des femmes, soit que je sache castrer. La castration entend qu'énoncer de quelque chose qui constitue un interdit, en aucun cas ne serait-ce fondé que du second temps du mythe du meurtre du père de la Horde, et à son dire, au dire de ce mythe même, il ne provient pas d'autre chose que d'un commun accord. Cette singulière initium dont je montrais la dernière fois le caractère problématique. Aussi bien le terme d'acte est-il ici à relever? À relever, soit dit en passant, pour marquer que s'il est vrai que ce que j'ai pu vous énoncer du niveau de l'acte, quand j'ai traité de l'acte psychanalytique, est à prendre au sérieux, à savoir qu'il ne saurait y avoir d'acte que du contexte déjà rempli de tout ce qu'il en est de l'incidence signifiante de son entrée en jeu dans le monde, il ne saurait y avoir d'acte au commencement, en tout cas d'aucun acte qui puisse se qualifier de meurtre, et que le mythe de Dieu serait avoir d'autre sens que celui à quoi je l'ai réduit d'un énoncé d'impossible. Ne saurait y avoir d'acte hors d'un champ déjà si complètement articulé comme la loi de ceci. Il y a d'autres actes qu'actes qui se réfère aux effets de cette articulation insuffisante et qui comporte toute la problématique d'une part de ce que comporte ce qu'est de chute l'existence même de quoi que ce soit qui puisse s'articuler comme sujet. Qu'est-ce qui y préexiste comme fonction législative? Est-ce à dire que c'est de la nature de l'acte que procède la fonction du père réel en ce qu'il est la castration? C'est très précisément ce que le terme d'agent que j'ai avancé nous permet de mettre en suspens le verbe agir dans la langue plus d'une résonance, à commencer par celle de l'acteur, de l'actionnaire, ça ne se voit pas. C'est fait avec action, ça vous montre qu'une action n'était pas tout à fait ce qu'on croit. De l'activisme aussi. Puisque l'activiste ne se définit pas à proprement parler de ceci, il se considère comme de quelque chose, plutôt l'instrument. Que l'artisme, pendant que je suis parti, je ferai un bon exemple pour qui serait de dire au terme de la chose freudienne, mais en fin de compte, de ce qu'on appelle tout simplement mon agent. Ce qu'on appelle mon agent, vous voyez en général ce que ça veut dire. Je le paye pour ça. Même pas. Je le dédommage. Je ne vois rien d'autre à faire. Je l'honore. En faisant semblant de partir de ceci, qu'il est capable d'autre chose. Voilà le niveau du terme où il convient de prendre ce qu'il en est du père réel comme gageant de la castration. Il fait le travail de l'agence mère. Ça fait plus en plus familier avec ses fonctions d'agence. Vivons à une époque où nous savons ce que ça véhicule. De la publicité. Des trucs qu'il faut vendre. Mais aussi que c'est avec ça que ça marche, le point où nous en sommes, de l'étalisme, du paroxysme du discours du maître, dans ce qu'il en est, société. Ceci nous inciterait plus tard. Et assurément, je serais porté de ici faire une petite coupure. Je vous la signale au passage parce que peut-être nous la reprendrons. C'est quelque chose qui avait pour moi son prix, peut-être un point, et qui ne paraît pas indigne de faire l'effort d'éclairer. Note qui est bien particulière au niveau de cette fonction de l'agent. Il faudra qu'un jour je vous montre que le développement psychique d'introduire la notion d'agent double dans chaque essai. Elle est de notre époque un des objets les plus incontestables, les plus certains de fascination. L'agent qui remet ça. Il n'y avait pas seulement le petit marché du maître, ce qui est le rôle de chacun. Il porte à travers savoir de tout ce qu'il y a qui vaille vraiment chanson de l'ordre de la puissance, n'a rien à faire avec les trames de ce filet. Il dit que mon Dieu, dans son petit boulot, en fin de compte, c'est ça qu'il préserve. L'étrange histoire, et qui mène loin. Le vrai agent double, c'est celui qui pense que ce qui échappe au crâne, ça aussi, faudrait l'agencer. Parce que si ça est vrai, l'agencement va le devenir, et du même coup, le premier agencement, celui qui manifestement était le top, va devenir vrai aussi. Très probablement ce qui disait un personnage qui se demande on ne sait pas quoi en fonction d'agent prototype de ce discours du maître en tant qu'il s'autorise de garder quelque chose de quelque chose d'un à profiler l'essence en disant prophétique, les murs sont bons. Henri Massis, pour le nommer. Enfin, le nommer Sorgue avec un nom si heideggerien pouvait être moyen d'être parmi les agents nazis et de se faire agent double. Agent double au profit de qui ? Au profit du père des peuples dont chacun espère, comme vous le savez, que ce sera lui. Le vrai sera aussi agencé. C'est une fonction, en fin de compte, donc ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué le père des peuples, justement. Parce que ça a beaucoup de rapport avec celle du père réel en tant qu'agent de la castration. Parce que ce fameux père réel, dont évidemment l'énoncé freudien de devoir, que devoir il ne peut pas faire autrement, ne serait-ce que par part de l'inconscient, de devoir partir du discours du maître, ne peut faire que l'impossible en se trompant ce père réel. Tout autre, d'abord, en général, tout le monde admet que c'est lui qui travaille. Et pour nourrir sa petite famille, il est l'agent quelque chose dans une société qui, évidemment, ne lui donne pas un grand rôle. Il reste tout de même, enfin, qu'il a des côtés excessivement gentils, il travaille et puis il voudrait bien être aimé. Il y a quelque chose qui montre que c'est évidemment bien ailleurs que gîte. Toute cette mystagogie qui en fait le tyran. C'est au niveau du père réel, en tant que le père réel, est un effet, une construction langagière, d'ailleurs, qui l'a toujours fait remarquer. Le père réel n'a pas d'autre réel, je ne dis pas réalité, car la réalité c'est encore autre chose, c'est ce dont je venais vous parler à l'instant. Il n'est pas autre chose qu'un effet de langage, Je pourrais même tout de suite pas aller un tout petit peu plus loin, vous venez à remarquer que scientifiquement, c'est intenable. Cette notion du pervers, il n'y a qu'un seul pervers, c'est le spermatozoïde. Et jusqu'à nouvel ordre, personne n'a jamais pensé à dire qu'il était. Sûr, naturellement, on peut faire des objections à l'aide de certains examens de groupes sanguins de cette espèce, de facteurs résus. Mais c'est tout nouveau, ça n'a absolument rien à faire avec tout ce que. C'est en étant la fonction du père, en sorte que s'il y a quelque chose que l'analyse pourrait faire poser comme question, il n'y a quand même pas que. Dans les tribus Aranga, qu'on pourrait se poser les questions de ce qui est réellement le père, dans une occasion où une femme s'est trouvée engrossée. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas, hein? On en a de temps en temps le soupçon. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas dans une psychanalyse? Le psychanalyste, qui soit, même si c'est pas lui du tout qui l'a fait, là, sur le terrain spermatozoïdique, qui soit le père réel, hein, puisque c'est à propos de quelque chose qui est le rapport de la patiente avec, disons, la situation analytique. Elle s'est trouvée finalement mère. Il n'y a pas besoin d'être un rempart pour se poser des questions sur ce qu'il en est de la fonction du père. Et on aperçoit du même coup, parce que ça nous élargit les idées, hein, qu'il n'y a pas besoin de prendre la référence de l'analyse que j'ai prise comme la plus brûlante. Pour que la même question se pose, n'est-ce pas? Voilà, on peut très bien faire un enfant à son mari et que ce soit, même si on n'a pas baisé avec l'enfant de quelqu'un d'autre, justement celui dont on aurait voulu qu'il fût le père. C'est à cause de ça qu'on a eu un enfant en mère. Alors, vous voyez, ça nous entraîne comme ça. Ça nous entraîne un petit peu dans le rêve, hein, de la vie. Comment je ne le fais que pour vous réveiller. Parce que si j'ai dit que. Tout ce qu'a élucubré Freud, non pas bien sûr au niveau ni du mythe, ni non plus de la reconnaissance des souhaits de mort de ses patients. Plus de dire que ça, c'est un rêve de Freud. C'est bien entendu par Simpson que l'analyste devrait un tout petit peu s'arracher à ce plan du rêve. Ce que l'analyste rencontre à avoir été dirigé, guidé, n'est-ce pas, par l'introduction, par le vol de quelque chose. Tout à fait percutant. seul analyste. On a retiré et encore pas du tout décanté. Vendredi dernier, je présentais la présentation du malade. Monsieur, il était arrivé des choses comme ça qui faisaient que son électroencéphalogramme, me disait la technicienne, est toujours en face à la limite de ce qui est l'oscillation du sommeil et celle du vigile. De sorte qu'on ne sait jamais quand il va passer d'une à l'autre, que ça en reste là. C'est un peu comme ça que je vois l'ensemble de tous nos collègues journalistes. Le choc, le traumatisme de la naissance de l'analyse les laisse comme ça. C'est pour ça qu'ils font des inventaires pour essayer de tirer de l'articulation freudienne quelque chose de plus précis. Ce n'est pas dit qu'ils n'en approchent pas. Mais ce qu'il faudrait qu'ils voient, par exemple, c'est que c'est de la position du père-mère, ça, ça mérite tout à fait d'être retenu, tel que Freud l'articule, à savoir comme un impossible, qu'il est nécessaire que, pas vous, ni lui, ni moi, enfin, tout ça, cette position même, imagine. Comme privateur. Le père imaginaire, qui n'est pas du tout surprenant sans cesse, c'est une dépendance structurale de quelque chose qui est justement ce qui nous échappe, à savoir ce qu'est le père réel. Et le père réel, strictement exclu, devenir d'une façon sûre, si ce n'est l'image de la castration, laquelle castration n'est pas, comme nécessairement toute personne qui psychologise la définit. On a vu ça surgir il n'y a pas si longtemps par exemple sur les têtes. Ou quelqu'un qui a décisivement pris le versant de la psychanalyse, la psychopédie que l'on sait, a dit pour nous la castration n'est qu'un fantasme. La castration, c'est l'opération réelle introduite par l'incident. Du signifiant quel qu'il soit dans le rapport du sexe, qu'elle détermine le père, ce réel possible que nous avons dit, mais ça va de soi. Et il s'agit maintenant de savoir ce que ça veut dire, cette castration qui n'est pas un fantasme. Il résulte, bien sûr, qu'il n'y a de cause du désir que produit de cette opération. Et que le fantasme domine toute la réalité du désir. C'est-à-dire la loi. Pour le même, chacun sait. c'est maintenant que c'est la demande, que c'est signifiant de liberté, qui ne sait absolument pas ce qu'il veut. L'idée de mettre le Père Tout-Puissant du désir au principe du désir est très suffisamment réfutée par le fait que c'est le désir de l'hystérique dont Freud a extrait ce signifiant maître. Que c'est de là Freud est parti, à savoir ce qui reste au centre de sa question. Il l'a avoué, mais ceci a été d'autant plus précieusement redit, c'est-à-dire que dit par une ânesse qui l'a répété sans absolument savoir ce que ça voulait dire. C'est la question que vaut une femme. Une femme n'est pas n'importe laquelle. Rien que poser la question, ça veut dire qu'elle veut quelque chose. Il n'a pas dit que veut la femme. Parce que la femme, je ne dirais pas qu'elle sera comme elle de tous les cas, elle sait comme elle de tous les cas, de tous les cas, vous savez qu'il y a un sujet qui est fier, mais il y en a bien d'autres, culture, kilowatt, culbute, ou quelqu'un. Cru et cuit, tout ça lui va également, il est absent. Mais dès que vous posez la question que veut une femme, vous situez la question au niveau du désir. Ça veut dire que situer la question au niveau du désir pour la femme, c'est interroger l'hystérique. Il est bien clair que l'hystérique de Dieu, ça pour ceux qui n'ont pas la vocation, là ils ont un barbeau, ce qu'elle veut c'est un être. C'est tout à fait clair. C'est même au point qu'il faut se poser la question si c'est pas de là que partie l'invention humaine. Ça, on peut pleurer élégamment parce que nous sommes en train de frapper. Elle veut un être, c'est la fille de du coin en haut à droite, que l'on parle d'un des autres noms. Que l'autre soit un être. Il s'agit beaucoup de choses. Mais tout de même pas qu'il en sache assez pour ne pas croire que c'est elle qui est le prix suprême de tout son savoir. C'est-à-dire qu'elle veut un être sur lequel elle règne. Elle règne et il ne gouverne pas. C'est bien que Freud est parti et c'est elle espérée. On peut très bien se percevoir que ce n'est pas forcément ce que c'est bien. Dès que vous posez la question que veut-elle, vous entrez dans la fonction du désir et vous sortez ce qui permet. Freud a produit un certain nombre de signifiants en l'air. La couvert, ça va de soi, ça sert aussi à boucher quelque chose, union de frères. Vous étonnez. On puisse associer à ce bouchon, qui est un nom du Père, quel qu'il soit. L'idée qu'à ce niveau-là, il peut y avoir que ce soit non plus. Au nom d'une dévotion au nom de Freud, les analystes sont ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas s'épétrer les signifiants maîtres de Freud. C'est tout. Ce n'est pas tellement à Freud qu'ils tiennent qu'à un certain nombre de signifiants. L'invention, la séduction, le traumatisme, le fantasme, le pas, le sang, tout ce que vous voulez. Il n'est pas question qu'ils sortent de cet ordre. Ils ont à ce niveau-là aucun père à créer. On n'est pas le père de signifiant. On est tout au plus père à cause de. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le vrai ressort est ceci. La recette, c'est pas le signifiant net. Autant qu'on voudrait l'attribuer au père du savoir en tant que vérité. Or, ce qui s'appuie, c'est là-dessus que la prochaine fois nous trouvons cette qu'apprendre le chef
fin de bande.